Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Alors là, par contre, je vais garder beaucoup de choses au montage parce que ça va vraiment être une discussion. Donc Esther, t'es la bienvenue pour intervenir quand tu veux. Les impertinentes, on a un questionnaire qui est un peu cadré, mais comme on est en train de faire un crossover, c'est vraiment inédit dans l'histoire de nos podcasts. On fait ce qu'on veut. C'est pas les impertinentes, on fait ce qu'on veut. Vous avez forcément déjà vu son visage ou entendu sa voix, ou du moins, vous connaissez son histoire. Marie Laguerre est cette femme qui a été agressée par un homme en pleine rue, devant la terrasse d'un café, et dont les images du coup qu'elle a reçu ont fait le tour du monde. Mais en réalité, vous ne connaissez pas son histoire. Elle est « Ah mais c'est toi, la meuf de la vidéosurveillance du bar !» Elle est devenue une véritable porte-parole de la lutte contre le harcèlement de rue. À ce titre, évidemment, Marie Laguerre avait toute sa place dans le podcast Activiste. Mais je ne voulais pas qu'on s'arrête uniquement à l'aspect engagé de son parcours, de son histoire. Je voulais qu'elle parle d'elle. Et c'est l'objet du podcast Les Impertinentes. Aller à la rencontre de celles qui vivent leur vie comme elles l'entendent. Le podcast que vous êtes en train d'écouter est donc la deuxième partie d'un entretien qui a débuté dans l'épisode 14 du podcast Activiste, publié mardi 10 mars. Rien ne vous empêche de commencer l'écoute par la deuxième partie. Ce n'est pas aux impertinentes que je vais donner des consignes, vous faites bien ce que vous voulez, y compris écouter les épisodes dans le désordre. Quel que soit votre choix, vous pourrez retrouver la première partie de cet entretien dans Activiste, mais aussi une réflexion sur le pouvoir d'action politique et citoyen dans l'épisode 14 de Travaux pratiques sur Tuto conquérir le monde, et bien sûr, la deuxième partie de notre rencontre avec Marie Laguerre, juste après la musique. Bonne écoute. On était donc en train de parler, donc pour continuer ton histoire, de média training, parce qu'effectivement, quelque chose qui m'a impressionné dans toutes tes prises de parole médiatiques, c'est la clarté du message, ton aisance sur les différents plateaux, dans les différentes situations, et quand même, enfin, j'ai fait assez peu de plateaux, mais je sais que c'est un exercice qui est hyper cadré selon que t'es 30 secondes de parole ou 3 minutes ou 20 minutes, c'est pas du tout le même exercice, et je me demandais si t'avais eu du média training pour réussir toutes ces prises de parole.
Alors, pas du tout. Mais déjà, je répondrais que quand c'est très très clair dans ta tête, parfois c'est plus facile de l'exprimer clairement. Donc déjà, le secret est là. Alors déjà, j'ai pas du tout eu de média training, et puis en plus, je ne suis pas du tout à l'aise à l'oral à la base. Donc déjà, je me suis beaucoup moquée de moi-même, par exemple, lors de mon oral de présentation de projet en archi, où en fait, à chaque fois, j'arrive pas à aligner deux mots. Genre vraiment, je regarde les profs et je suis là, et là, on a... Et franchement, c'est la honte, parce que genre des fois, ils doivent me regarder en mode « Mais c'est quoi cette meuf qui sait pas parler ?» J'ai envie de leur dire « Mais regardez, c'est mon nom sur Google, je vous jure que je sais parler, mais...
» T'as qu'à imaginer que c'est une caméra de BFM TV ?
Non, non, bah pitié. Non, mais c'est juste parce qu'en fait, je suis tellement sûre de ce que j'exprime au niveau du féminisme, parce que j'y ai beaucoup réfléchi, parce que je l'ai énormément confronté, je l'ai beaucoup débattu avec des gens. Voilà, ça sort pas de mon chapeau. Je suis tellement... confiante sur ce que je dis, que je peux l'exprimer clairement, alors que par contre, quand je dois présenter mon projet d'archi, avec en étant arrivée en cours de route en plus, donc en ayant un énorme complexe, là c'est beaucoup plus compliqué. Et même avant, cette histoire, quand je présentais des exposés, enfin j'en sais rien, ma soutenance, des trucs comme ça, je flippais et j'étais quand même, je pense, moins claire. Voilà, c'est vraiment juste parce que je connais bien le sujet. Et puis, moi-même, je me suis vraiment surprise. Le premier direct qu'on m'a proposé, c'était pour la matinale de RMC, 6 jours après mon agression. C'était donc télé-radio. Je pense que ce qui a aidé, c'est que je n'ai pas la télé, je ne connais pas du tout les médias. Donc en fait, j'ai découvert les médias quand ils m'ont contacté. Il y en a, CNews par exemple, ils m'envoyaient des messages, je n'avais jamais entendu parler, je me suis dit que c'était un petit truc... je me suis dit c'est un petit truc un peu obscur, genre bon, bref. Et pareil pour RMC en fait. Moi j'écoute juste la radio et j'écoute FIP. Il n'y a pas beaucoup d'infos, il n'y a surtout pas de pub. Et après je connais RTL2 pour la musique et RFM. Voilà. Et donc du coup moi quand ils m'ont proposé RMC, je crois que j'ai mis un mois à comprendre que RMC c'était RMC et pas RFM. Et donc quand on m'a proposé la matinale, je me suis dit voilà, ça doit être un petit truc obscur qui passe que sur internet. Et la radio, mais personne doit trop l'écouter parce que c'est surtout de la musique cette chaîne. Et donc,
c'est formidable,
c'est magique. Et donc en fait, je pense que j'ai autant réussi à gérer à la fois le stress et ce que je disais, parce qu'en fait, je ne réalisais pas du tout. Et vu que j'ai pas la télé, Enfin, ça me faisait un peu ni chaud ni froid d'y passer. Et je réalisais pas qu'il y avait vraiment des gens qui écoutaient ça. Et donc, après, mais je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, parce qu'on m'a fait quand même passer au maquillage et tout. Je pense que j'ai pas eu le temps de réaliser où j'étais. Et puis oui, en effet, ça s'est très bien passé directement. Après, mes parents m'ont envoyé une photo de moi donc à la télé. Je fais « Ah, mais bon, waouh !» Et voilà, et puis d'ailleurs, c'est marrant parce que mes parents aussi, au début, ils étaient un peu inquiets. Bah, c'est normal, enfin voilà, ils ont leur fille quand même qui est agressée. Et puis après, d'un coup, il y a toutes ces demandes médias. Alors mes parents, ils ont été extrêmement... Enfin, ils m'ont beaucoup soutenue. Et ils venaient tous les jours me voir, me nourrir, parce que je me nourris, bon bref. Bon, enfin, je vais pas rentrer dans tous les détails. Mais donc, mes parents m'ont beaucoup soutenue. Mais surtout, voilà, ils m'encadraient, ils voulaient pas que... Comment dire, je voulais pas que les médias non plus profitent de moi, enfin je sais pas où. Enfin, ils étaient inquiets, quoi, comme n'importe quel parent. Et donc, du coup, dès les premières interviews, ils ont été aussi bluffés. Et en fait, mes parents, c'était un peu mon thermomètre, parce que ça me permettait de voir si je m'en sortais bien. Et puis, donc, du coup, au fur et à mesure des prises de parole, ils me disaient non, mais franchement, donc au début, ils étaient inquiets, puis après, ils étaient là, bah, totalement confiance en toi, tu t'en sors très bien. Et puis, bah, pour te dire un peu à quel point c'est allé vite, donc, deux jours après avoir fait. Alors, déjà, la matinale de. J'ai fait la matinale de RMC et après, dans la même journée, j'ai été invitée chez Pujadas et BFM en direct. J'ai refusé les deux parce que j'ai eu un mental breakdown assez ouf. Parce que voilà, 24 heures ultra médiatisées, j'ai fini en larmes, épuisée à devoir trouver une avocate d'urgence. C'était, voilà. Mais deux jours après, j'ai été invitée chez France 24. Et là, hyper drôle, donc... Une demande si je parle anglais, j'ai fait yes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée, j'ai fait le plateau en direct de France 24 France, français, en français. Ça dure une minute. Ensuite, on me fait sortir, on me fait viens, suis-nous. Je traverse les couloirs et je rentre dans un autre studio, un autre plateau. Et là, je fais la même chose en anglais. Voilà. Donc, moi, en fait, mon deuxième direct à la télé, c'était en français et en anglais. C'est un peu ma petite fierté. Mais voilà.
Mais ouais, belle gosse.
De ouf. Mais ce qui est. Mais alors après, tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'ai un peu commencé à trébucher, tu vois. En fait, ça a commencé, j'ai commencé à avoir plus de difficultés à partir du moment où j'ai fait le plateau chez Hanouna. Là, j'ai été invitée chez eux, j'ai absolument pas aimé y aller, j'ai absolument pas aimé faire ça. J'ai eu l'impression en fait, d'assister à un massacre, pas de moi-même, mais des femmes, parce qu'en fait, il s'est dit des choses absolument hallucinantes et j'avais juste tellement de peine pour les filles, les femmes qui écoutaient. On parle des choses avec intelligence ou on le fait pas. Enfin, et donc du coup, j'ai beaucoup stressé à dans ce plateau-là. J'ai pas réussi. Enfin, moi, j'estime que j'ai été nulle. Bon après, les retours que j'ai eu étaient bons, mais.
Bah ça, c'est le type de plateau dont je parlais quand je te disais t'as 30 secondes. Parce qu'en fait, c'est des micro séquences. Alors moi, je l'ai fait aussi. Balance ton poste sur le féminisme et c'était contre à propos de la tribune de enfin du livre de Eugénie Bastier sur le fait que l'ère post-MeToo était devenue la terreur pour les hommes. Je caricature un peu, pardon, si elle m'écoute. Mais en gros, comment?
Et t'avais qui en face de toi?
Et bah justement, ils n'avaient pas réussi à vraiment trouver quelqu'un à mettre en face parce que bah enfin personne ne, quelque part ne voulait vraiment défendre la liberté d'importuner entre guillemets. Donc c'était une des signataires de la tribune Liberté d'importuner, mais on n'était pas vraiment opposés en fait, puisque toute la base du clash n'était pas entre femmes quelque part, elle était entre le et maintenant qu'est-ce qu'on fait. On avait peut-être des positions divergentes sur et maintenant qu'est-ce qu'on fait, mais le conflit qu'on avait de base, c'était plutôt l'angle de vue de Eugénie Bastier qui disait l'ère post-MeToo, c'est dramatique parce que les hommes ont peur de prendre l'ascenseur avec des femmes, enfin bref, tout ce discours très très hors sujet. Donc, mais pour revenir à l'émission, en fait, c'est pour ça que je te parlais de la difficulté de ce type de prise de parole, parce que ben, quand t'as une, on te donne la parole et il faut que tu sortes une punchline directe, c'est-à-dire que tu sois pertinente sur ta première, la première phrase. On peut pas faire comme dans la vie en disant « Ah oui, donc c'est vrai que sur ce sujet, et puis chercher un peu ses mots, et puis se laisser le temps de réfléchir, enfin c'est pas possible sur ce type d'émission. » C'est presque scénarisé dans la façon où ils sont tout calmes, hors champ, et puis d'un coup, Hanouna commence, et puis tu prends la parole, il la passe à quelqu'un, enfin ça rebondit, et c'est presque théâtralisé la façon dont ils réagissent face à la caméra.
Moi, je trouve déjà que c'est une méthode indécente pour traiter des sujets importants. Et puis en plus, en fait, ça participe à bah, voilà, le fait qu'en fait, on a de moins en moins de concentration. Et je m'englobe totalement là-dedans. On est dans une culture où il faut que tout aille vite, les messages soient courts, pertinents. Mais en fait, c'est pas comme ça en fait, qu'on développe une pensée critique. Voilà. Donc ça encourage les jeunes à encore moins aller creuser des sujets et à tout voir dans la vitesse. Moi, je trouve que c'est dangereux, hein, vraiment. Et après, enfin voilà, moi, j'aime pas débattre comme ça. Et puis en plus, voilà, sans parler du fait que, avant de monter sur le plateau, quand même, on a des gens qui te disent, bah, coupe la parole, quoi. Genre, vas-y, attaque. Et ils veulent en fait que tu attaques. Et c'est aussi une mise en danger. Enfin, moi, j'avais déjà subi un super harcèlement assez violent. Et en fait, te mettre dans cette position-là, et en plus te présenter comme militante féministe, enfin. Il y a tout un truc en fait pour te donner une image de toi, c'est te mettre en danger. Et voilà, donc moi je dénonce ça. Je voulais en parler le lendemain sur Twitter et j'ai pas osé parce que je sais pas, il y a une peur. Des fois, je me dis qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, est-ce que si je dis ça, on va plus jamais m'inviter, si on m'invite pas, bah je pourrais plus parler en fait, je pourrais plus défendre tout ça. Donc, c'est un peu, des fois je suis un peu perdue dans qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire dans ce monde médiatique. Mais bon, bah, en tout cas, moi, cette émission, voilà, je la trouve en fait dangereuse, tout simplement. Enfin, il y a des sujets vraiment extrêmement importants qui sont débattus de manière indécente. Et en face de moi, j'avais donc Elisabeth Lévy. Voilà. Donc, qui finalement en fait me fait énormément de peine parce que je me dis, cette femme, combien de violences elle a dû subir pour arriver à un moment à complètement nier les violences, en fait. Enfin, elle doit être complètement traumatisée, je pense, et elle doit être dans un déni profond pour pouvoir continuer à vivre, en fait. Enfin, c'est je pense.
Tu le sais, en plus, avec ton expérience de féministe, que c'est une stratégie de survie pour pas mal de femmes. Bien sûr. C'est d'être, entre guillemets, dans le camp des agresseurs, j'allais dire, mais plutôt, globalement, dans le camp des dominants, c'est-à-dire, on n'est pas des victimes, on n'est pas des faibles femmes là. C'est pas facile tous les jours, mais c'est facile pour personne dans la vie. Donc on avance et ça va bien se passer, quoi.
Elle dit même pas que c'est pas facile tous les jours. Elle pense qu'on est des gagnantes, qu'on a gagné le combat en fait.
C'est une excellente façon d'éviter de désespérer face aux injustices du monde. C'est de décider de changer son regard sur ce monde en disant, vous savez quoi, moi, on me tire la porte et on m'offre des verres en soirée, donc j'ai gagné.
C'est ça. Et puis aussi, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui ne veulent pas être vues comme victimes. Et ça, je trouve que c'est faire complètement fausse route. Moi, quand je dis qu'on subit des choses, des violences, en tant que femme, qu'on est opprimée, qu'on subit des violences, je suis pas en train de nous poser en victime. Enfin, en fait, je pense que le mot victime est associé à des choses péjoratives. Et d'ailleurs, j'ai fait le lien au fait que quand j'étais au collège, au lycée, une insulte qu'on disait aux gens, c'est « t'es une victime ». Je sais pas si vous avez vécu ça aussi.
Bien sûr.
T'es vraiment trop une victime et tout. Mais en fait, c'est quoi cette société de domination où genre faut surtout pas être victime ? En fait, être victime, c'est un statut juridique, déjà, il me semble. Mais ça ne veut rien. Enfin, moi, oui, je suis une victime de la personne qui m'a frappé, du mec qui m'a frappé. Je suis une victime des mecs qui m'ont agressé sexuellement. Je suis une victime du mec qui m'a craché dessus. Je suis une victime des mecs qui m'insultent dans la rue. Bah ouais, mais enfin. Ça veut pas dire que je suis soumise, ça veut pas dire que je suis passive. Non, en fait, c'est un fait. Après, chacune en fait ce qu'elle veut. Moi, je me bats, mais même si les femmes se battent pas, ça ne change rien sur qui elles sont, leur intégrité. Voilà, je pense qu'il y a tout un tas de femmes qui ne veulent surtout pas qu'on voit les femmes comme des petites choses fragiles. Mais en fait, elles mélangent tout. Évidemment qu'on n'est pas des petites choses fragiles. Enfin, déjà, on subit tout ça et on survit. Donc déjà, ça montre à quel point on est ultra forte. Cette image de faiblesse et de soumission, c'est la société qui veut nous faire rentrer dans ces carcans et justement nous on se bat pour sortir de ça. Mais enfin, en fait, je comprends pas la logique des fois. Enfin, genre, c'est pas parce que voilà, on dit qu'on subit des choses qu'on est en train de dire qu'on est faible. Enfin, bon, bref, et du coup, bah, typiquement, Elisabeth Lévy et Jeannie Bastille, il me semble aussi, ont ce discours de victimisation soi-disant des femmes. Alors, excusez-moi, mais qui se victimise entre celles qui racontent les viols qu'elles ont subis et ceux qui disent je peux plus monter dans l'ascenseur avec une femme? Non, mais encore une fois, il y a une inversion qui est phénoménale. Enfin, qui c'est qui... Enfin... Non, mais bon. Les pauvres hommes. Pardon.
Merci beaucoup, Marie. Sérieux, franchement, je pense que je le disais dans l'épisode d'Activiste, que tu avais sans doute énormément fait pour faire progresser la cause féministe, mais rien que sur cette question en particulier. Mais tu te rends compte que tu as complètement renversé l'image que les gens peuvent associer à victime. C'est-à-dire que, ok, tu as été victime d'une agression dans la rue, et depuis ce jour, t'es une vraie guerrière sur ce front médiatique, et on est en train d'en parler là depuis une dizaine de minutes. C'est effectivement extrêmement difficile, extrêmement violent par moment dans certaines situations. À chaque fois que tu prends la parole, tu t'exposes donc en fait du cyberharcèlement derrière, etc., etc. Enfin, oui, s'il y a bien quelqu'un qui a montré qu'être victime, c'était pas du tout être faible, passive ou quoi que ce soit, et pas du tout incompatible avec cette notion de force, de résistance et de combat, je crois que c'est vraiment toi.
Et je tiens quand même à préciser, parce que tu dis, voilà, par rapport à comment j'ai réagi, mais moi j'ai envie de dire aussi, toutes les femmes qui nous écoutent, les filles qui nous écoutent, si jamais, voilà, vous, même si vous ne réagissez pas, ça fait pas de vous quelqu'un de passif et de soumis. Hein. Enfin, je veux dire, parfois, ne pas réagir, c'est se protéger, c'est une façon de survivre. Voilà. Donc surtout pas, voilà, il n'y a pas d'injonction non plus. Aussi, voilà, on parle de force et de faiblesse, on n'a pas envie d'être faible, mais moi personnellement, j'ai pris un coup de poing dans la gueule, mais en fait... À aucun moment j'ai eu l'impression d'être la personne faible dans l'histoire, au contraire. C'est-à-dire que moi je l'ai regardé dans les yeux, je suis restée complètement stoïque, je me suis relevée, j'ai continué à le regarder d'un air totalement stable, enfin je sais pas comment dire. Et en face de moi j'avais ce mec donc, qui était en train de s'énerver, qui avait complètement perdu le contrôle de lui-même. Je veux dire, entre lui et moi, la personne qui est forte, c'est pas celle qui a mis un coup de poing avec des muscles forts. Non, je pense que c'était, bah, c'était moi, enfin, dans mon contrôle de la situation. Voilà. Et puis... Après, j'aurais d'autres anecdotes à raconter, mais... Enfin... Bon, attends, je dis, t'enlèveras si c'est pas intéressant.
Oui, non, a priori, je vais rien enlever.
Ça me fait penser aussi à un truc, tu vois, c'est une anecdote que je raconte de temps en temps. Lors du procès, du coup, de mon agresseur, moi, ça faisait un mois que j'avais mes règles. Ça faisait un mois que je saignais, que j'avais mal, et en fait, le matin même du procès, j'ai fait une IRM et on m'a diagnostiqué une forme d'endométriose. Voilà, donc, littéralement, j'ai appris ça 20 minutes avant d'arriver au tribunal où il y avait des dizaines de journalistes qui m'attendaient, et voilà. Et je pense à cette scène, enfin, cette journée finalement, où genre. Donc le procès, je pense qu'il a dû durer 3 heures à peu près. Pour moi, c'était 3 heures plus avant des interviews avec ce qu'on appelle la meute. Donc, c'est des dizaines de journalistes en fait, qui sont autour de nous, les micros absolument collés à nous partout, plein de caméras et les questions qui s'enchaînent. Donc, c'est le moment où il ne faut surtout pas se décrotter le nez, déjà.
Prenez note.
Voilà, attention. Et, non, mais tu vois, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. À un moment, je me frotte les yeux parce que je suis fatiguée. Et genre, il y a quand même... donc, Lorraine m'a dit... à un moment, elle me fait... Donc, Lorraine, avec qui j'ai écrit le livre, qui m'a dit « Mais moi, je t'ai vu une vidéo de toi en train de pleurer. » J'ai fait « Mais non, mais je suis sûre que j'ai pas pleuré au tribunal. » Enfin, justement, en tant que femme, je sais qu'on m'attend au tournant. Il n'y a pas de problème si les femmes pleurent, hein, vraiment. Mais moi, je voulais absolument contrôler absolument mon image. Et je lui dis non, 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 enfin, c'est impossible. Elle m'a ressorti le truc. En effet, c'est un passage où on me voit, je me frotte les yeux, mais je pleurais pas. Enfin, bon, bref. Tout ça pour dire que, enfin, bon, ça, c'est une sacrée pression hein, quand plein de caméras sont sur nous. Bon, bref. Et donc, du coup, cette journée, c'était, voilà, donc des interviews extrêmement stressantes, puis un procès extrêmement lourd aussi, puisque j'avais ce mec en face de moi. Puis voilà, il faut, enfin, tout à écouter. Il faut écouter la plaidoirie de la défense qui est extrêmement dérangeante. Et puis donc voilà, moi pendant tout le procès je suis restée droite, stoïque, et puis en fait en face de moi j'avais ce mec qui ne tenait pas debout, enfin genre il se penche, je sais pas comment dire, il se tenait pas droit, il s'affalait, il arrivait pas à rester debout tout du long, il passait son temps à couper la parole aux juges, aux avocates, enfin il y avait que des femmes hein, d'ailleurs, c'était que des femmes, procureuses, je sais pas comment on dit,
complot féministe.
et bon, du coup c'était assez satisfaisant. Et voilà, et en fait donc je me suis dit à ce moment-là, moi je pensais à mon utérus qui était en train de se, je sais pas comment dire, de faire la révolution, on va dire, et lui, et mais pourtant voilà, j'étais capable de tenir sans problème, et lui en face de moi qui tenait pas debout, et là je me suis dit non mais attendez. Toutes les fois où on m'a dit « t'as pas tes règles ?» Enfin, hein, « t'as tes règles ou quoi ?» Et toutes les fois voilà, où on s'est moqué des femmes, comme quoi elles étaient instables émotionnellement et tout, je me suis dit « mais c'est tellement une arnaque !» Et enfin voilà, bon, c'est juste une petite anecdote pour vous montrer encore une fois où est la force, où est la faiblesse. En fait, je pense que si on commence à regarder le comportement des hommes aussi durement qu'on regarde celui des femmes, on se rend compte que, bah, par exemple, quand on dit que... les femmes sont hystériques et tout, mais enfin, regardons 2 minutes, qui c'est qui passe leur temps à s'énerver sur les plateaux télé. Enfin, et d'ailleurs, excuse-moi, j'enchaîne, tu couperas si... Ça, pareil, enfin, on m'a fait la remarque que je m'exprimais sans m'énerver sur les plateaux télé, et du coup, c'était bien parce que c'était audible, et puis en plus, c'est agréable de voir une femme qui s'exprime, voilà, clairement. Et en même temps, enfin, on m'a complimenté là-dessus, très bien, c'est gentil, et après, on a tapé sur d'autres, c'est-à-dire en disant oui, parce que par rapport à d'autres féministes qui s'énervent, je leur dis, mais attendez, c'est gentil, mais là, enfin, moi, je veux pas que vous critiquiez les autres sœurs de lutte, parce qu'en fait, déjà, c'est une injonction au calme, évidemment, qu'on impose qu'aux femmes. Et puis en plus, enfin, on parle quand même de nos vies, on parle de violences extrêmement graves, des choses qui touchent à notre intimité, voilà, des choses très traumatisantes. Donc en fait, on peut pas s'attendre à ce que les femmes soient toujours calmes. C'est extrêmement difficile. Enfin, rien que le fait que, je sais pas, ils diffusent la vidéo de moi en train d'être frappée en plein devant moi, enfin, c'est suffisant pour me mettre pour me faire perdre mes moyens. Du coup, maintenant, j'ai mes techniques pour éviter. Je pense qu'ils déjà eux-mêmes cherchent à nous pousser. Hein. Puis on le sait, ils cherchent le buzz et ils cherchent que les femmes s'énervent. Enfin, bon, bref, mais ça, c'est. Enfin, ça aussi, c'est une injonction qu'on implique vraiment, qu'on impose qu'aux femmes, finalement. Parce que les hommes, quand D'ailleurs, je reprends un tweet d'Alexandra Ocasio-Cortez d'il y a quelques jours. Elle dit que les hommes en colère sont puissants, mais que les femmes en colère sont dérangées. Enfin, attends, je sais pas comment
traduire. C'est comment en anglais ? Tu l'as sous les yeux en anglais ?
It's truly time to retire the misogynistic trope that angry men are powerful, yet angry women are unhinged.
Ah oui, unhinged, c'est dérangé, ouais. C'est...
Mais voilà, en gros, il y a un double standard, je dis ici. Puis même, en plus, c'est toujours un peu compliqué parce que quand on me fait des compliments, mais que derrière, il y a un truc qui est sexiste, moi, il y a une partie de moi, genre, j'ai envie de le faire remarquer, mais j'ai toujours très peur, malheureusement, de perdre la validation de la personne. Et je pense que ça, c'est une des choses les plus révolutionnaires qu'une femme peut faire. Hein. C'est se détacher du coup de l'acceptation, bah, notamment des hommes, parce qu'en l'occurrence, c'est des retours d'hommes. De se détacher de ça, en fait, et d'accepter d'être vue comme...
Cette question de la colère, effectivement, chez les femmes, c'est assez crucial, je pense, d'en faire un vrai sujet aujourd'hui et d'arrêter de revenir sans arrêt à ce cliché de l'hystérique. D'autant plus que... elle peut être saine, la colère. Et il faut savoir la gérer. Donc, je ne sais pas, toi, comment tu gères ta colère ?
Excellente question. Moi, c'est un truc que un message que j'essaie de faire passer, notamment aux filles, aux femmes qui m'écoutent, c'est de dire que la colère est extrêmement saine. En fait, ce qui serait malsain dans notre société, c'est de ne pas être en colère. Et d'ailleurs, j'ai vu passer pas mal d'articles féministes sur le fait qu'en fait, les femmes, on ne nous laisse pas la possibilité d'être en colère. Souvent, ça va s'exprimer. Les émotions qu'on va avoir, elles vont souvent s'exprimer justement par la tristesse, qui est justement une émotion beaucoup plus acceptable chez les femmes. De même, peut-être, on peut faire le parallèle des hommes qui, eux, vont s'exprimer par la colère pour à peu près toutes les émotions et la violence. Mais par contre, j'évite la symétrisation parce que, voilà, il n'y a pas de symétrie à faire entre les émotions chez les hommes qui, malheureusement, vont donner lieu à des violences et chez nous qui vont avoir différentes conséquences, notamment parfois des violences envers nous-mêmes. Mais voilà, j'estime que notre colère, non seulement elle est saine, mais elle est surtout légitime. Et voilà, et ça, il faut se l'imprimer. C'est pas facile, hein. Enfin, même moi, hein, vraiment, très souvent, j'observe comment ça me rattrape. Et je pense que c'est aussi important de le reconnaître pour que ça. On peut pas, en fait, dire voilà, on peut pas dire que il faut atteindre tout de suite ce but d'avoir déconstruit tout d'un coup. Voilà, voilà. Enfin, c'est important de reconnaître que. Même moi, après, je suis pas non plus la référence machin, mais ça fait quand même plusieurs années que je réfléchis, que je déconstruis, et c'est intéressant de voir qu'on a encore des biais vers nous-mêmes. Et donc, ta question, c'était sur la colère. Attends, c'était quoi déjà ?
C'était comment tu gères ta colère, parce qu'elle peut être à la fois saine, parfois aussi un peu envahissante, et tu peux avoir besoin de t'en reposer.
Alors, déjà, je vais parler d'une colère un peu spécifique, celle qui m'a colonisée après mon agression. Et je trouve que le terme est particulièrement juste. Enfin, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est un terme qui est. Après, je sais pas si ça peut... Bon, bref, bon, c'est un terme qui est utilisé par des féministes et je trouve qu'il est assez juste. Parce que, en fait, la violence qu'il m'a donnée, en fait, après, je la sentais en moi me pourrir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'après mon agression, pendant plusieurs mois, quand je sortais, déjà, j'étais tendue de partout. J'étais en hypervigilance, donc ça m'épuisait. Chaque trajet dehors était épuisant. Et j'avais, du coup, cette colère. Mais voilà, j'avais l'impression que c'est lui qui me l'avait... donné quoi. Et des fois j'étais dans le métro et j'étais donc ça se voyait, je pense que mon corps était complètement en position d'attaque et en fait j'attendais que le moindre mec fasse un pet de travers quoi, genre me regarde mal, me parle mal, m'insulte pour le défoncer sur place. Voilà, j'avais envie de frapper quelqu'un vraiment. Donc après voilà, j'ai le recul nécessaire de savoir que c'est pas bien, enfin voilà, j'ai pas envie de vivre dans une société où on se frappe et donc évidemment j'ai travaillé là-dessus. Comment j'ai travaillé là-dessus ? Je sais pas, c'est passé. J'ai travaillé psychologiquement dessus. Mais donc, il y avait cette colère, déjà. Après, qui est vraiment un résultat, en fait, de l'agression. Après, il y a aussi la colère en général, celle qu'on a quand on reçoit des témoignages. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas de solution secrète, enfin, miracle, pour gérer sa colère, parce que du coup, on en a beaucoup. Surtout, voilà, quand on commence à entendre toutes les histoires de femmes. Même quand on connaît la violence, j'ai l'impression qu'en fait, on peut être toujours surprise par l'inventivité de l'horreur, en fait, de certains hommes. J'ai vu dans tes questions, il y a une question où je vais...
Alors vas-y, c'est la transition parce que...
Oui, non mais c'était... attends, c'était quelle partie ? C'est une partie où tu dis quelle est la leçon, leçon que tu as apprise. Mais en gros, voilà, j'ai pas de secret sur comment gérer sa colère. Mais un truc que j'ai appris, c'est qu'en fait, on peut pas passer sa vie à se battre. Dans ce sens, on peut pas sacrifier toutes les heures de sa journée à faire ça. Et c'est genre fondamental de faire des pauses, de s'écouter et de sentir quand on n'en peut plus. Notamment, enfin, moi par exemple, j'avais lancé une plateforme où les femmes peuvent témoigner des violences qu'elles ont pu subir. Donc voilà, moi mon histoire c'est du harcèlement, mais j'ai toujours essayé d'agrandir parce que j'aime pas traiter en fait les symptômes un par un. C'est dépolitiser justement le sujet. Et donc dedans, j'ai reçu des histoires qui vont des histoires de femmes qui ont été mises mal à l'aise par des hommes jusqu'à des histoires d'inceste. Et en fait, ça fait des mois que je lis plus les témoignages parce que voilà, je ne peux pas. Même quand j'en reçois par message privé, je ne peux pas. Donc, et j'ai appris à déculpabiliser de ça. Voilà, c'est dur, mais en fait, à déculpabiliser, donc déjà de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. En fait, quand toute cette histoire est arrivée, j'ai commencé à avoir de l'attention médiatique et je me suis dit, mon Dieu, genre, waouh, là, c'est maintenant, il faut que je fasse un truc, il faut que je fasse un truc exceptionnel qui va tout révolutionner. Genre, il fallait toujours que je fasse plus. Mais du coup, je me suis exténuée. Genre, j'ai fait des burn-out sur burn-out pendant l'année qui a suivi. C'était très difficile. Mais je me suis mis une pression de dingue, genre, en mode, ce que j'ai fait, c'est pas assez. Genre, il y a encore trop de violence. Vraiment. Enfin, je me disais, tant qu'il y a des violences, je peux pas m'arrêter. Il faut que je continue, que je me sacrifie. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai appris à me dire que voilà, non, mais en fait, c'est important qu'on prenne du temps pour soi. Et du coup, ça rejoint l'histoire de la colère. Pourquoi? Parce que. C'est peut-être aussi comme ça qu'on peut gérer notre colère, c'est en ayant des moments doux, des moments de bienveillance. Et moi, ces moments, je les ai notamment quand je suis avec d'autres femmes, mais pas que. Alors, j'ai des moments entre femmes où déjà on est entre nous et on se reconstruit ensemble. Aussi, des moments où je ne parle pas féminisme et je fais des trucs qui n'ont rien à voir, mais pour penser à autre chose. Et j'essaie d'éteindre cette partie de mon cerveau. Et même des fois, je vois des trucs sexistes et je me dis non, mais là, j'ai pas envie de faire de remarques, j'ai pas envie de me confronter à ça, je ferme les yeux. Même sur des films sexistes, je ferme les yeux deux secondes parce que ça bouffe notre énergie, hein, vraiment. Et notre énergie, du coup, moi, s'il y a un truc que j'ai appris, c'est qu'elle n'est pas infinie. J'ai vu ma santé se dégrader jusqu'au point où je ne pouvais plus marcher. J'ai vu tout ça, je l'ai vécu, et pour avoir vraiment perdu la santé mentale et physique, maintenant, je sais qu'on a besoin de prendre soin de nous. Et je pense que prendre soin de soi, c'est aussi une façon de gérer sa colère. Et aussi, comment gérer sa colère, en s'engageant. Et du coup, pour conclure sur le truc que je disais, que je voulais vraiment tout donner, me sacrifier absolument, je pense qu'il faut accepter le fait qu'en fait, c'est un combat qui est sur le long terme. Malheureusement, moi, je ne verrai pas l'égalité dans ma vie, la fin de l'oppression des femmes, ni mes enfants, je pense, et ni mes petits-enfants, parce que les mentalités, ça prend énormément, énormément de temps à changer. Et donc, en fait, il faut s'armer de patience. Et donc, il faut survivre dans toutes ces horreurs dont on est témoin et qu'on vit nous-mêmes. Donc, il faut trouver des petits moyens de souffler. Donc, j'ai appris qu'il fallait être égoïste, en fait, tout simplement. Enfin, le mot peut paraître... mais en fait, c'est vraiment ça, c'est... savoir dire non, et je savais pas forcément le faire.
Moi, je pense qu'il faut surtout qu'on apprenne à mettre de la nuance dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on vit. Encore une fois, pas comme une injonction, mais par rapport à ce que tu viens de raconter, je note un point commun entre beaucoup de femmes, c'est cette tendance à toujours vouloir tout faire à fond, c'est-à-dire à partir du moment où t'as la parole, tu te sens investie d'une mission, et si j'ai pas résolu le problème du harcèlement de rue, du coup j'ai échoué, alors que je pense que non. Je pense que vraiment, il y a plein de degrés entre réussir et échouer dans cette histoire. Et comme tu viens de le conclure, en fait, on verra probablement pas l'égalité de notre vivant. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, on n'a qu'à décider tout de suite qu'on arrête tout, vu que ça sert à rien. Ou alors, non, on décide que on construit pas à pas, petit à petit, un avenir qui verra le jour, un jour, sans nous, sans doute.
C'est comme un escalier sur lequel il y a des marches successives et on les grimpe au fur et à mesure, quoi.
Et l'égoïsme, ça veut pas dire du coup je m'en fous du reste du monde et il y a plus que ma gueule qui compte. C'est pas du tout ça. C'est juste garder une place pour soi dans le monde qu'on est en train de construire ensemble.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est un acte profondément féministe aussi de savoir s'occuper de soi-même. Et après, si pour en dire pour se donner aussi du courage et continuer à avancer, il faut aussi se dire que ok, on pourra pas changer le monde entier, mais il faut se raccrocher à l'idée que si on aide déjà juste une femme, déjà on a gagné, quoi.
Oui, je suis d'accord. Moi, ça m'aide beaucoup aussi de me rappeler ça, de me dire que, par exemple, quand des femmes me racontent leur histoire, parce que je fais beaucoup de témoignages ou ce genre de choses, et qu'à la fin, elles me remercient parce que, elles, ça leur a fait du bien de pouvoir en parler, et ben en fait, rien que ça, même si personne le lit, même si personne le voit, moi, je m'en fous, j'ai fait mon taf.
Mais c'est exactement ce que je me dis vis-à-vis du coup de la page de témoignage. En fait, au début, je voulais vraiment faire plus pour elle. D'ailleurs, j'ai un projet qui date du coup d'il y a un an et demi où j'avais listé plein de choses pour aider les victimes, comment elles peuvent porter plainte, etc. J'ai jamais eu le temps de finir de le mettre en ligne parce que
Parce que la vie.
Oui, enfin, j'ai pas le temps, en fait, j'ai le temps de rien. Et du coup, au final, j'en suis arrivée à la conclusion de me dire, mais. En fait, ce dont elles ont besoin, ces femmes, et ce dont moi aussi j'ai eu besoin, parce que avant cette histoire, j'ai déjà témoigné aussi à des pages de témoignages, c'était en fait d'en parler à quelqu'un, mais enfin, même si juste d'en parler, de l'écrire. Donc je me dis, c'est déjà, enfin, c'est déjà bien. Et puis en plus, la plateforme que j'ai mis, elle est totalement safe, puisque c'est moi qui suis dessus, c'est pas un mascu, tu vois. Donc au moins, leur parole est protégée et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc même si j'arrive pas à aller. Autant que je veux, j'essaie d'être voilà, plus bienveillante envers moi-même. Et voilà, comme tu dis, nuancer, c'est-à-dire d'accepter qu'on peut pas... Ouais, on n'a pas à faire tout à fond super bien, que déjà, un peu, c'est déjà bien.
Pour revenir à la colère, moi, je pense que c'est... Alors, je pense que la colère est au féminisme ce que le feu est à Koh-Lanta, c'est-à-dire indispensable à la survie. T'en as absolument besoin. Mais en revanche, si tu passes toute ton aventure à t'occuper que du feu et à être sans arrêt en train d'attiser le feu par le feu, tu passes quand même à côté du but de l'aventure qui est les épreuves, le reste de la survie et puis à la fin, gagner le jeu.
Oui, tout à fait. Non, mais la colère est saine, la colère est légitime, la colère est nécessaire, mais après, la colère peut aussi nous bouffer. Voilà, aussi la gérer dans l'idée de prendre soin de soi, quoi. Parce que la colère aussi, comme tu dis, c'est du feu, en fait. Et le faim, c'est du stress aussi, tu vois. Et le stress, ça nous pourrit la santé.
Comme tu le disais, c'est aussi une résultante de nos vies, de nos expériences. Donc effectivement, c'est quelque chose avec lequel on doit composer. Et tant qu'à faire, faisons-en une force. Plutôt que quelque chose qu'on subit et qui, effectivement, nous rend malade. C'est très intéressant ce que tu décris sur ton propre rapport à la colère, sur ce double rapport. La colère plutôt néfaste et presque comme un poison qui est la résultante de l'agression, que tu décris comme quelque chose que le mec t'a transmis en te frappant. Et l'autre partie de la colère qui est plus une espèce de force, effectivement, qui te permet d'avancer, quelque chose que tu utilises dans ton combat féministe. Je pense qu'on peut être très nombreuses à se retrouver dans cette... dans cette expérience.
Voilà, j'ai pas d'injonction à donner aux femmes qui sont très très en colère parce que voilà, elle est normale, elle est juste. Mais c'est vrai que après, moi je trouve que j'arrive plus à faire bouger les choses en ayant trouvé un peu plus la paix avec ma colère, on va dire. Mais bon, faut pas tomber dans les injonctions parce qu'encore une fois, en fait, c'est quand je vois des femmes qui se battent avec beaucoup de colère et donc, avec du coup des méthodes peut-être un peu plus violentes, et plus agressives, mais en fait. Je dis bah moi c'est pas la méthode que j'utilise mais par contre j'irai jamais les critiquer et je dis bah ouais mais je comprends. Enfin si par exemple souvent je pense que c'est arrivé un peu à toutes les féministes, des gens qui vont nous dire ah ouais mais bon toi ça va mais bon il y a des féministes extrémistes. Moi je leur dis alors premièrement déjà on va reprendre les bases, le féminisme c'est un peu le mouvement le plus pacifique au monde hein, déjà. Enfin je veux dire on a tué personne, on colle des trucs sur les murs à la limite. Et on chante des trucs. Bon, voilà. Enfin, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Il y a d'autres mouvements sociaux qui sont bien plus violents et à juste titre. Hein, voilà. Nous, on est vraiment, vraiment, vraiment pacifistes. Ensuite, quand on me parle des féministes extrémistes, je refuse de me désolidariser d'elles parce que c'est. Enfin, on va pas cracher sur d'autres femmes. Et j'explique que bah moi, j'ai pas forcément la même façon d'agir, mais en fait, je comprends totalement. Et du coup, en général, j'essaie d'expliquer aux gens. Enfin, j'essaie de leur expliquer. Voilà, mais ces femmes, si elles en sont là, c'est parce que enfin, on leur a fait baver. Elles sont à bout. Enfin, elles ont reçu. Enfin, c'est légitime en fait quand on t'attaque contre. Elles ont vécu sûrement des trucs très très traumatisants. Et en fait, c'est légitime voilà de répondre avec de comme ça. Et puis en général, je leur dis, puis bon, voilà, qu'est-ce qu'elles veulent en général, c'est ne pas vivre avec des hommes. Enfin, c'est ça. Je veux dire, je crois que le mouvement le plus, c'est les séparatistes, c'est celles qui veulent en fait, ne pas sociabiliser avec des hommes. Enfin, je veux dire, on compare, il y a ceux qui nous violent, nous tuent tous les jours, et il y a celles qui veulent, attention, pas parler aux hommes. Enfin, je veux dire, ça va, quoi. A priori.
Mais de toute façon, je te rassure parce que toutes les objections qui sont soulevées en disant ah mais toi tu gères bien ta colère ou bien ah mais toi t'es pas extrémiste comme les autres etc. Tu sais c'est toujours la déclinaison de la même version de
t'es pas comme les autres.
T'es pas comme les autres filles. Et qu'on avait à l'école primaire, qu'on avait dans toute notre scolarité, c'est toujours la stratégie de division du patriarcat, de nous monter les unes contre les autres. Donc là, c'est oh, mais là, tu gères tellement mieux ta colère que les autres énervés là-bas. Ou bien toi, t'es tellement plus audible et tellement plus construite dans ta façon de t'exprimer. Enfin, c'est toujours pareil, c'est la même arnaque. Donc apprenons à le reconnaître entre nous. Quand on nous essaie de nous valoriser en dévalorisant d'autres femmes, ça n'est pas une valorisation, c'est juste dévaloriser les autres femmes.
Mise en compétition des femmes, diviser les femmes, hyper efficace pour nous maintenir en oppression. D'ailleurs, ça, comme le disent les paroles de la chanson de l'hymne des femmes, ils nous ont divisé les femmes et de nos sœurs séparées. Seules dans notre malheur les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisé les femmes et de nos sœurs séparées. Et un peu plus loin, il y a reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous.
Très bien. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on passe dans le questionnaire des impertinentes. Il y a un choix à faire. Puisque c'est.
J'ai posé la question sur le début là, moi j'avais préparé et tout.
Alors, me saoulent les bonnes élèves là. C'est en général la première question des impertinentes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marie?
Non, je réponds là, ça y est.
Bah oui, ça y est, c'est parti, j'ai posé la question. Okay.
Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, je fais beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Je suis étudiante en architecture, déjà, ce qui prend beaucoup de temps. Ensuite, je vais tout englober dans le mot militer, donc je milite. Dedans, j'englobe le fait d'avoir sorti un livre, avec tout ce qui va avec, la promo, les conférences, des conférences du coup, des interventions, médias, collège, lycée, enfin tout un tas d'événements autour de, enfin pour militer, enfin plein de petites activités qu'on sait pas trop comment, enfin moi je sais jamais trop comment les nommer en fait, très diversifié.
C'est extrêmement clair. Cela dit, au moment où on est en train d'enregistrer ça, on est à plus de 2 heures d'interview, donc t'es impressionnante.
On est aussi au deuxième café.
Également.
Non mais moi je suis, c'est bon, mais... j'ai de l'expérience, hein. J'ai déjà fait plusieurs heures de, enfin. J'ai déjà enchaîné la semaine dernière 4 interviews. Donc, ça,
Est-ce que tu gagnes ta vie pour le moment?
Alors, non, mais du coup, et j'en viens à ma troisième occupation qui est que j'ai un job, on va dire un petit job étudiant à hauteur de près de 10 heures par semaine que je fais sur mon ordinateur. Et donc, je gagne ma vie via ça. Alors, je suis encore soutenue par mes parents financièrement parce que j'étudie. C'est le deal qu'on a. Tant que j'étudie, ils me soutiennent. Après, de moins en moins, parce que mes parents sont à la retraite, d'où le fait que j'ai un job à côté. Mais là où ça coince, c'est qu'en fait, je me retrouve en fait un moment de ma vie où, en fait, je gagne. Enfin, bon, comme beaucoup de militantes le savent, hein, militer, ça ne.
Il n'y a pas d'argent dans le féminisme. Incroyable.
Ouais, je vais mettre le pied dans le plat dans le sujet que je crois qu'on n'en parle pas trop en France, de ne pas parler d'argent, mais je vais parler d'argent.
Parle d'argent. Parlons d'argent.
Je vais parler d'argent et peut-être mon évolution sur la question. Je pense que c'est important, et pas pour moi, mais aussi pour les autres. Quand j'ai commencé à militer, à répondre, je ne voulais rien toucher, même l'argent en fait, de mon procès initialement. Tout de suite, j'ai dit, je veux le donner à une asso. Parce que déjà, je me suis dit, j'en ai pas besoin. Bon, c'était totalement le sacrifice au féminin, genre en mode femme altruiste, absolument. Et puis surtout, garder de l'argent, mon Dieu, tout de suite, je sais pas, inconsciemment, c'était péjoratif.
Faudrait pas que tu gagnes de l'argent en ayant été victime d'agression, ce serait indécent.
Alors, déjà, mon avis sur l'argent des dommages d'intérêt a totalement changé. Déjà, non seulement, je pense pas que je vais tout toucher, déjà. Et en plus, vu en fait la thune que j'ai mis dans les soins médicaux non remboursés, donc psychologue, ostéopathe, puisque j'ai eu des soucis physiques liés complètement aux violences que j'ai subies, vu combien ça m'a coûté, en fait. Si j'avais pas eu mes parents, j'aurais pas pu me soigner et ça couvre pas du tout en fait les frais, l'argent du procès déjà. Donc du coup mon avis a changé là-dessus. Donc oui j'en avais besoin en fait et je ne peux pas le donner.
C'est d'ailleurs pour ça que c'est des dommages à intérêt.
Oui,
c'est censé couvrir pour dommages causés.
Mais ça ne couvre pas en fait. Et ensuite en termes de tout ce qui est les interventions médiatiques, donc moi je donnais dans le but où j'ai pas besoin de toucher de l'argent puisque je le fais pour une cause, pas pour moi quoi, pour tout le monde. Mon avis a changé là-dessus en fait quand j'ai commencé à comprendre que j'étais complètement exploitée, comprendre qu'en fait les médias se sont fait un paquet d'argent sur mon dos. Clairement, c'est ça qui s'est passé, parce que je leur ai donné des vidéos, des séquences, télé, radio, écrit, mais plein, qui est parfois en plus des articles qui étaient payants, ils se sont fait un max de thunes sur mon dos, c'est la réalité, sauf qu'en France, on ne paye pas les personnes interviewées. Au début, je trouve ça bien, parce que comme ça, au moins, on garde notre indépendance d'opinion, Mais en fait, au bout d'un an à faire ça, donc à ne pas compter mes heures, mais des centaines d'heures de travail complètement bénévole, parfois faire des documentaires après mes cours jusqu'à 2h du matin, parfois avant d'aller en cours, ça commençait à me dire non mais là c'est un peu abusé. Alors la situation n'a pas changé, hein. Je ne suis toujours pas payée quand je fais des interventions médias. Et en fait je me suis dit en fait c'est même pas que vis-à-vis de moi, c'est aussi vis-à-vis des prochaines femmes. Si moi j'accepte de faire bénévolement, elles aussi en fait elles vont devoir le faire bénévolement. Bon, je dis ça, mais en attendant, je suis toujours incapable de demander quoi que ce soit. Mais je pense qu'il faut que ça se travaille.
De toute façon, tu ne pourrais pas. C'est-à-dire que les rédactions ne payent pas.
Mais oui, c'est ça.
C'est pas comme ça que fonctionne le journalisme.
Ce que je comprends pour une interview, mais quand t'en fais 150,
c'est là qu'il y a un
souci. Et que tu donnes une expertise en fait.
C'est que dans ce que tu racontes, il y a aussi un glissement entre l'interview et le travail de journaliste et le côté spectacle, production d'images, de séquences, de buzz, etc. Où on n'est plus vraiment dans informer. Ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les certaines émissions de télé qui relèvent plus de la mise en scène et du spectacle que de l'information.
Oui, il y a de ça, mais il y a aussi le travail de donner des analyses qui viennent d'une expertise et tout ça bénévolement. Bon, c'est une réflexion que j'ouvre. tu vois, après je pourrais dire moi je suis pas dans le besoin par rapport à d'autres, mais c'est pas cette, c'est pas, mais elle est pas là la question en
non,
fait.
Non, et c'est ça le piège, mais c'est très intéressant.
C'est ça, et justement voilà,
d'ouvrir
je suis tombée,
cette réflexion.
Voilà, je suis tombée dans l'idée de me dire maintenant mais moi j'ai pas besoin donc c'est bon, et en fait voilà, sauf que je suis arrivée à un moment donc aujourd'hui où du coup je travaille maintenant, et en fait j'arrive à un moment où j'arrive pas à faire mes heures. J'arrive pas à faire mes heures de travail, donc je risque de perdre mon boulot parce que je fais trop de choses bénévolement à côté. Et là du coup la question se pose et je me dis bah merde, enfin donc j'ai trouvé un équilibre.
Donc t'as le choix entre refuser des interventions bénévoles parce que c'est le facteur sur lequel t'as une marge de manœuvre, c'est le temps, puisque tu peux pas décider d'être payé plus sur moins d'heures, c'est pas toi qui maîtrises. En revanche tu peux décider de l'allocation de ton temps, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement faire moins d'interventions bénévoles, ça veut dire refuser plus de choses, ça veut dire reculer ton investissement militant. Et quelque part effectivement il y a un déséquilibre que tu exprimes bien entre c'est le travail qui est le plus important pour toi, si j'ai bien compris, parce que ça fait 2 heures qu'on en parle, ça a l'air important quand même, et il n'est pas du tout rémunérateur d'aucune façon. C'est un piège dans lequel je pense que beaucoup de femmes sont enfermées, et une des sorties de ce piège c'est effectivement d'interroger notre rapport à l'argent. Donc même si t'as pas la solution et que là tout de suite je l'ai pas non plus, c'est une réflexion qui est vraiment très intéressante à ouvrir.
Ouais, puis voilà, comme on dit le bénévolat c'est au féminin quoi, le bénévolat est féminin majoritairement. Voilà, après enfin tout ce que je fais aussi en ce moment en termes de militantisme c'est lié au livre qu'on a sorti, donc là ça prend une autre tournure puisqu'il y a aussi quelque chose finalement que c'est moi qui vends. Bon, évidemment, ça nous rend pas riches.
Alors, vous êtes deux co-autrices en plus. Et alors, j'annonce, mais il va y avoir un épisode des Impertinentes avec une autrice.
Lorraine
Non, avec une autrice qui me parle assez longuement du rapport racine et du statut des artistes, des autrices artistes. Et donc, je te confirme que tu ne vas pas, a priori, devenir riche.
Avec les royalties du bouquin. Voilà.
Non, puis c'est marrant parce que je repense, tu sais, au tout début de l'histoire. Donc, quand je répondais aux médias, il y avait un mec qui m'avait dit « Oh là là, elle fait tous les plateaux télé, bientôt elle ira chez Hanouna, elle écrira un livre. » Alors, c'est hyper drôle, il faut vraiment que je retrouve ce mec parce que du coup, il a eu raison sur toute la ligne. Mais après, mais voilà. Et en fait, je dis ça pour devancer un peu les critiques. Enfin, bon, évidemment, c'est pas les masculins qui vont écouter ce podcast, je suppose. Mais c'est... Personne ne fait ça pour l'argent. Enfin, je pense pas. Voilà, on fait ça parce qu'on y croit, hein, parce que c'est urgent, parce que c'est vital. Mais en effet, non, le livre, ça ne. Après, c'est quand même satisfaisant d'avoir donc déjà un objet. En fait, le livre, ce qui est assez chouette, c'est que j'ai tellement donné de mon temps, de mon énergie aux autres. Et là, en fait, c'est quelque chose que j'ai capitalisé, mais un objet avec. Enfin, c'est mon objet, on va dire. Et voilà. Et donc, en effet, tous les trucs de militantisme, les conférences et tout, sont liés aussi au livre. Donc, c'est un plaisir de le faire et c'est important que je le fasse. Mais voilà. Non, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a un rap. Enfin, là, c'est-à-dire que je suis au niveau max. J'ai aucune marge de manœuvre dans mon quotidien. C'est-à-dire que mes journées sont calibrées à l'heure près, en fait. J'ai pas vraiment beaucoup de temps libre. Alors, j'ai appris un truc aussi, c'est de surtout voir ses amis. Donc maintenant, je me réserve vraiment des temps pour passer du temps avec mes amis, hyper important. Parce que c'est une des erreurs que j'ai fait, c'est d'avoir complètement annulé toutes mes sorties avec mes potes quand l'affaire a commencé, et donc du coup j'ai eu le contre-coup, mais voilà, enfin du coup ça fait que mon emploi du temps est très très chargé. Et après pour bien conclure sur qu'est-ce que je fais dans ma vie, donc, je suis quand même aussi un diplôme d'ingénieur, mais on l'a déjà dit. C'est parce que mon papa il m'a dit mon papa qui est trop fier. En fait, quand l'histoire elle a commencé, je venais d'avoir mon diplôme, et du coup il a dit dis bien que t'es ingénieur, hein, parce que c'est bien.
C'est trop mignon.
Du coup, ben, voilà. Non, mais il a pas tort aussi, parce que du bien coup, sûr. Faut pas cacher ses... Donc voilà. Donc, tu vois, j'arrive, même pour une question simple, j'arrive à te faire...
Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie n'est pas une question simple. C'est pour ça que je l'ai tournée comme ça. C'est pour ça que c'est ma question d'introduction dans tous ces entretiens-là. C'est parce que la façon dont les gens répondent à cette question, déjà, c'est intéressant. Parce que c'est la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est pas forcément... leur métier, ce qu'ils vont répondre. C'est pas forcément leur gagne-pain, tu vois.
Mais tu vois, j'ai envie de te faire une autre réponse, du coup. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Dans quoi tu te projettes quand t'es adolescent? Et du coup, souvent, c'est par des métiers. Et qu'aujourd'hui, plus du tout, en fait. Le moment où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et j'ai fait mon stage de fin d'études, je me suis rendu compte que je ne voulais vraiment pas travailler dans ce milieu. En tout cas, dans une boîte de BTP au CAC 40, pour ne pas citer chez qui j'étais. Enfin, je me suis rendu compte que je voulais vraiment, vraiment pas travailler là-dedans, ça n'avait pas de sens pour moi. Et donc, en fait, finalement, je suis passée d'idée de métier, comme quand on est enfant, on pense ça, à plutôt une philosophie de vie. Et du coup, c'est déjà ne pas prévoir parce que ça sert à rien, parce que j'avais prévu de faire des choses et bah du coup tout a été complètement chamboulé par ce qui s'est passé. Donc je pars du principe qu'on sait jamais de qu'est-ce qui peut se passer. Ça sert à rien de trop prévoir. J'ai un milliard de projets dans ma tête. Si jamais j'ai du temps libre, je saurai quoi faire. J'ai pas de temps libre, mais j'aime bien cette idée, voilà, de saisir les opportunités qui viennent et en fait d'avoir une vie un peu qu'on peut pas prévoir. Enfin, j'aime bien, moi en tout cas ça me plaît bien. Et puis voilà, d'être guidée beaucoup plus par des valeurs. Donc déjà, je vois aucun intérêt bah, justement à accumuler, donc notamment l'argent, la consommation, ça ne m'intéresse pas. En parallèle, j'ai beaucoup réfléchi autour de tout ce qui est le minimalisme. Alors, vu l'état de mon appartement, j'ai dû stopper cette réflexion parce qu'en fait, on ne peut pas tout gérer. De même, hein, j'avais grave commencé à faire du zéro déchet, enfin plein de trucs que j'ai dû mettre sur pause parce que toute cette histoire... Et du coup, j'en viens à dire qu'il ne faut pas culpabiliser de ne pas être au top dans tout ce qu'on veut faire, y compris dans l'écologie, le féminisme, enfin tout, parce qu'en fait, on est humain et on ne peut pas être sur tous les fronts.
Et puis en plus, c'est un énorme frein, en fait, le fait de se dire qu'il faut être parfait pour agir. Si tu attends d'être parfait pour agir, en fait, laisse tomber, tu ne vas jamais lever le petit doigt, quoi.
Exactement. Enfin... Voilà, mais du coup, plein de nouvelles philosophies, mais nourries aussi, finalement, par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Quand je dis les réseaux sociaux, c'est vraiment l'outil qui te permet de découvrir tellement de choses différentes, des blogs, etc. Donc voilà, maintenant c'est beaucoup plus. Je re-questionne beaucoup aussi le sens de la vie, bon, pas vrai, enfin plutôt le sens de notre société. Genre avant, j'achetais beaucoup de. Là, je suis désolée, je parle beaucoup. Mais...
Encore une fois, on s'excuse.
Désolée.
Oh merde, je voudrais faire un jeu à bois.
Waouh.
Fais un bégaye.
Mais non, mais parce que tu vois, quand j'étais ado, justement, j'achetais beaucoup de fringues, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, je supporte plus d'acheter un seul truc. Enfin, voilà, ça a vachement évolué. J'ai vachement questionné la société, consommation, un autre équilibre. Bon, je l'ai pas inventé, hein. Ça, je le lis. Je vois. Bon, bref.
Mais c'est ça, grandir, c'est évoluer. Ça.
Et donc après, je suis un peu inquiète parce que je sais pas trop comment je vais travailler parce qu'en fait, même dans le sens du travail, j'y vois pas de sens parce que je sais pas. C'est travailler, enfin en tout cas dans mes milieux, donc architecture, ingénieur, c'est produire finalement. Produire des bâtiments et tout. Et je sais pas, l'idée de production, donc du coup, production, c'est croissance, consommation, et du coup, je pense que je vais réinventer mon métier, un truc un peu plus.
Effectivement, ça nécessite de toute façon de la réflexion. Et comme tu dis depuis tout à l'heure, en ce moment, t'as pas non plus tant de cerveau disponible pour y réfléchir, et c'est un cheminement qui va probablement se faire petit à petit, quoi. Enfin.
Tu es étudiante en architecture et justement, la troisième partie de l'interview des impertinentes, c'est sur l'architecture de ta vie. Et c'est un choix, puisque je t'ai demandé de choisir entre deux propositions. Soit on parle de ta zone de confort, comme si c'était une pièce de ta maison, soit on parle du film de ta vie. Alors, est-ce que ça fait partie des questions auxquelles tu avais réfléchi et est-ce que tu as déjà une préférence ?
Alors, tout à l'heure, du coup, j'ai regardé tout ce matin et je me suis dit plutôt la zone de confort.
La zone de confort, très bien. Donc,
Surtout qu'en plus, j'ai écouté le podcast de Tiffany, donc si j'avais fait film, j'aurais été beaucoup trop influencée par sa réponse.
Alors, effectivement, je notais que tu parlais avec des mots féminisés de type impostrice, ce qui trahit ta proximité avec cette redoutable rebelle.
Nous sommes dangereux. En plus, nous organisons Tiffany. Et nous avons des réseaux, des groupes secrets. Alors.
Pour comprendre cette référence, n'hésitez pas à aller écouter l'interview de Tiffany D dans Les Impertinences. Vous comprendrez, c'est très drôle. Voilà.
Mais en plus, je suis même pas sûre que ça. Enfin, peut-être que c'est à force de traîner avec elle, mais c'est aussi juste. Enfin, imposteur. Enfin, si je commence à parler de moi en imposteur, ça ferait vraiment bizarre.
Non, mais je suis. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça trop cool que tu le dises, parce que justement, j'utilise souvent l'expression de syndrome de l'imposteur. Et je me suis posé plusieurs fois la question de comment on dit imposteuse, Et en fait, impostrice. Et ça passe tout seul. C'est comme autrice, au début, ça pouvait déranger certaines personnes. Et aujourd'hui, c'est quand même assez communiqué.
Oui, mais on sait très bien que le changement dérange tout le monde. Hein.
Les rageux diront que c'est moche.
Et d'ailleurs, je pense que le changement dérange tout le monde. D'ailleurs, je pense que les femmes ont été très dérangées quand on a supprimé justement les mots autrice, mairesse, philosophesse, peintresse au XVIe siècle.
Ça, tu vois, je sais qui tu fréquentes.
Non, mais du coup, ça, tu vois, moi, je l'ai appris. Non, bah là, pour le coup, ça, je l'ai appris dans un article il y a déjà 4 ans. Avant de connaître Tiffany.
De Iliane Viano.
Je sais pas, franchement, c'est un blog. C'est un article. Mais... Depuis, il y en a beaucoup plus, mais à l'époque, c'était le seul que j'avais trouvé. Et je trouvais ça hyper intéressant. Ça expliquait, en fait, c'est là où j'ai appris que le cardinal de Richelieu avait, du coup, créé l'Académie française, supprimé plein de mots féminins. Donc, c'était avant de rencontrer Tiffany.
Je recentre sur l'ameublement de ta zone de confort, du coup. Si ta zone de confort était une pièce dans ta maison, qu'est-ce qu'on trouverait à l'intérieur ? Alors, on imagine vraiment que ce soit à la fois un espace physique, c'est-à-dire à quoi ça ressemble, mais aussi qu'est-ce qu'il y a d'immatériel à l'intérieur, hein, des principes de vie, des, je ne sais pas si tu as des citations inspirantes, des visuels, comme tu veux, comme tu le sens. Je te précise un peu que l'idée derrière la question, c'est de permettre à celles qui vont écouter de pouvoir éventuellement aménager leur propre zone de confort en récupérant les idées déco sympas de la tienne.
Ça fait beaucoup de pression, ça.
Bah, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, encore une fois. C'est-à-dire qu'on nous éduque à être gentil, docile, etc. Et la zone de confort, pour moi, c'est un élément essentiel de confiance dans la vie. Je la vois pas du tout comme un truc un peu péjoratif de « si tu restes dedans, c'est que t'es plan-plan », etc. Non, en fait, c'est presque un espace de sécurité dans lequel tu peux te ressourcer physiquement ou mentalement. Alors, si tu as un endroit dans ta vie qui remplit cette fonction-là, hein, pour certaines personnes, c'est chez leurs parents. Pour d'autres, c'est surtout pas chez leurs parents. Enfin, tout est possible. Mais j'aimerais nous amener collectivement à réfléchir sur où est-ce qu'on se ressource. On a parlé très longuement de colère tout à l'heure. Pour moi, la zone de confort, c'est justement si la colère, elle est là, ben, c'est dans un feu de cheminée, par exemple. Tu vois, c'est pas au milieu de la pièce en train de faire des taches et des traces de brûlures sur les murs.
Mais c'est hyper intéressant comme question. Enfin, si je comprends bien, du coup, c'est vraiment un lieu qu'on associe aux émotions positives, quoi, rassurantes, etc.
Exactement.
Alors déjà oui, je pense que c'est un petit espace. J'aime bien les petits espaces cosy. J'ai toujours aimé les trucs cosy, genre dans les coins, tu vois. Quand j'étais petite, plus jeune, je vais pas dire petite parce que c'était encore le cas en première année d'école d'ingénieur, j'aimais beaucoup, beaucoup avoir genre plein de coussins, tu vois. Genre un lit. Tu vois, genre là, bon, les gens le voient pas, mais il y a un trou à côté de mon lit à cause des poteaux. Il peut pas être dans le coin complètement et ça me... C'est pas idéal, quoi. Donc, il faut qu'il y ait un coin. Il faut qu'il y ait un coin et il faut qu'il y ait des matériaux chauds, enfin, comment dire, à l'inverse de froid, c'est-à-dire pas de carrelage. Je veux genre soit du lino, parce que bon, le lino, c'est quand même pratique, ou un beau parquet. Ça serait cool aussi, un parquet. Mais c'est possible qu'il craque pas. Après, s'il craque, c'est pas mal, parce que ça fait du charme et puis ça me rappelle une maison d'enfance que j'aime bien. En général, il y a des trucs sur les murs, pas de murs blancs. J'aime bien mettre des photos. Alors, moi j'ai un Polaroid, du coup, mes Polaroids sont... Je suis très attachée à eux, parce que... En fait, je suis un peu en train de te décrire ma chambre, mais c'est parce qu'elle est à mon image. C'est pas grave, j'ai le droit de faire ça ?
T'as le droit de faire ça.
Ok. J'aime bien mes Polaroids, parce que du coup... Alors, petite histoire. Tu coupes si tu trouves que c'est hors sujet.
C'est la 12e fois qu'elle me fait le coup.
En gros, genre, j'ai commencé à avoir une petite passion pour le Polaroid, et du coup, ce que j'aime bien, c'est que mes photos, elles sont toutes uniques, et puis en fait, je... Puis il y a beaucoup de gens, enfin j'ai immortalisé les gens que j'aime, et donc du coup bah, je peux les avoir juste à côté de moi en fait. Voilà. Et puis aussi des voyages, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager. Donc j'ai ces photos à côté de moi, des œuvres de ma maman aussi, parce que ma maman est artiste, de la lumière, une jolie lumière, toujours une guirlande chez moi, des plaids. Enfin en gros, il faut que ce soit doux, tu vois, cosy, vraiment. Genre un coin, tu vois, cosy, doux, de la musique douce, de la musique. Toujours de la musique, pas forcément douce en fait, ça dépend de l'humeur, mais toujours de la musique. Genre jamais il y a du silence chez moi. Mais en fait j'écoute tout le temps de la musique, que je sois chez moi ou dans mes oreilles dans la rue. Ça m'aide énormément à gérer les angoisses. C'est, enfin, encore une petite digression, mais genre quand juste après mon agression, j'étais vraiment vraiment pas bien dans la rue, et en fait j'écoutais Chilla, Si j'étais un homme, en boucle, et ça me donnait tellement, enfin, de la force en fait. Elle m'a beaucoup 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 aidé, cette chanson. Après, attends, des trucs un peu, tu veux aussi des trucs un peu moins physiques, moins matériels.
Là, t'as fait une description physique, ouais, de la pièce. Qu'est-ce que on pourrait y trouver en termes de oui, ouais, de notions immatérielles, leçons de vie, citations, inspiration, des choses qui te permettent de te recentrer, d'être ressourcé, de retrouver confiance, de retrouver de la sécurité.
Alors moi, il y a une phrase que ma psy m'a dit. Que j'ai trouvé tellement juste, c'est le perfectionnisme est une maladie grave, mais ça se soigne. Parce qu'en fait, moi, je vais faire la phrase hyper bateau, je souffre de perfectionnisme. Mais genre, enfin, quand je dis ça, c'est-à-dire que je suis jamais contente de moi, enfin, je me suis améliorée, hein, mais jamais contente de moi, jamais satisfaite, donc toujours dans un mauvais mood vis-à-vis de soi-même. Et du coup, en fait, cette phrase, bah, je l'ai trouvée tellement. Enfin, moi, elle m'a beaucoup parlé, et du coup, bah, ça revient un peu à ce que je disais avant, c'est voilà, d'être doux envers soi-même et puis d'être bienveillante envers soi-même, et puis de savoir se satisfaire de ce qu'on a fait, enfin de regarder finalement le chemin parcouru plutôt que le chemin qui reste à parcourir. Après, je réfléchis à d'autres, mais c'est vrai que des fois, je note des petits trucs comme ça qui peuvent me rassurer. Voilà, enfin, en gros, c'est pour résumer, c'est du confort, quoi, du confort et de la douceur envers soi-même.
Merci pour ça. Je te propose qu'on avance. On a tous et toutes rencontré des obstacles dans la vie. Est-ce qu'il y a une épreuve qui t'a particulièrement marqué et pourquoi ?
Pour répondre à cette question, je vais pas répondre par une seule épreuve, mais par un ensemble de trucs qui s'est passé pour moi, qui sont étalés sur un an à peu près. C'est pas juste raconter mon agression, parce que c'est pas du tout seulement ça. En fait, c'est juste que je vais pas juste parler de mon agression. C'est pas ça l'épreuve particulièrement, mais en fait de tout ce qui s'est passé autour, surtout après. Que voilà, en fait, ça s'est pas arrêté pour moi juste au coup que j'ai reçu. Ça a été aussi, donc, dans l'épreuve très très difficile, la médiatisation, qui est quelque chose d'extrêmement violent, extrêmement difficile. Il y a une perte de l'anonymat qui peut être vraiment difficile à vivre. Le cyberharcèlement. Mais ça, j'en parlerai du coup à la question qu'est-ce que ça m'a coûté. Et, enfin, c'est celle que j'ai choisie, si je peux. mais pas seulement, en fait, y a d'autres choses qui sont passées dans ma vie privée. Donc là, c'est vraiment, c'est très intime ce que je vais raconter. C'est des choses que je peux pas forcément raconter publiquement, pour des raisons légales de protection. Mais je suis sortie, deux semaines après mon procès, en fait, je me suis rendu compte que j'avais été dans une relation abusive. Donc je peux pas en dire plus parce que, pour des raisons évidentes. Et donc ça a été extrêmement difficile, extrêmement violent, vraiment. J'aimerais vraiment pouvoir plus en parler, mais j'ai pas encore cette... c'est ça qui est difficile aussi, c'est que je pense que je suis pas la seule, j'ai pas le droit à la parole sur ma propre histoire. Et puis, voilà, en plus je vivais ça en pleine médiatisation, donc c'était un peu... Mais voilà, mais en tout cas ce que je peux dire c'est que... voilà, j'étais quand même la nana qui était médiatisée comme quelqu'un de fort qui s'est battu. Et puis en même temps, je me suis rendu compte que j'ai été victime complètement manipulée. Et souvent, ce qu'on dit aux femmes, voilà, c'est pourquoi tu t'es fait avoir, pourquoi t'es restée, etc. Et donc, moi, je t'avoue que je suis tombée de haut, en fait. Même si je sais que c'est pas... On est des victimes, voilà. Mais je suis tombée de haut et ça a été très difficile. Et je pense que je suis pas la seule, en fait, à... Évidemment, connaissant les statistiques, je sais que je suis pas la seule à... Bon, je suis obligée de rester floue sur de quoi je parle, mais certaines se reconnaîtront sûrement. Mais je suis tombée vraiment de très très haut quand j'ai découvert, en fait, toute la manipulation que j'avais subie. Et du coup, le dégoût que ça a engendré aussi de moi-même. Mais voilà, donc ça a été une épreuve très difficile. Bon, voilà, je reste hyper floue. Et ensuite, s'en est suivi, mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je pense que la vie m'a pris pour un punching ball, là, pendant un moment, parce que j'ai perdu, en fait, une amie du cancer juste après. Ça aussi, j'en parlais pas trop, parce que, je sais pas trop comment me positionner, parler de ça sur les réseaux sociaux et tout, et puis, c'est quelque chose de très personnel aussi. Je suis pas la seule à avoir traversé, du coup, avec mes copines et tout. Mais voilà, et en fait, je sais pas, ça a été l'année... l'année où, du coup, si on est élargi à la période avec cette histoire dont je ne peux pas trop parler, ça fait donc 2-3 ans. Ça a été... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ma vie jusque-là, ça allait à peu près. Enfin, à peu près, évidemment, il y a toutes les histoires que je raconte dans mon livre qui sont évidemment pas super, mais j'avais fait avec. Et là, d'un coup, je me suis pris mais un tas de trucs dans la gueule. Et donc, il y a la partie que les gens connaissent publiquement, et puis il y a les parties que les gens ne connaissent pas publiquement. Et franchement, j'ai dû puiser, mais vraiment, puiser pour me relever, quoi. Et en fait, pendant longtemps, j'avançais dans le noir, quoi, vraiment. J'ai failli quitter mes études, quitter Paris. Je supportais pas d'être à Paris, en fait. J'ai été agressée en bas de chez moi. Vous avez dû passer devant. C'est-à-dire que je dois passer au même endroit tous les jours. Il y a un moment où, je voulais tout arrêter, quoi. Mais heureusement, je me souvenais que m'étais tellement battue pour continuer mes études en architecture, donc j'ai rien lâché et je me suis dit, mais continue, même si c'est super dur, il y a un moment tu seras super fière d'avoir réussi à valider ton année, d'avoir réussi d'avoir baissé les bras. Mais en tout cas, ouais, ça a été vraiment très très long, très difficile. Il y a un moment où j'avais plus du tout de projet pour le futur, hein, mais plus du tout, je savais pas où j'allais, quoi. Et puis après, il y a eu le contre-coup de tout ça, parce que c'est en décalé. Et du coup, j'ai là, c'est plus moi qui... Je pense que c'est plus moi qui ai besoin d'extérioriser, mais bon, j'ai le droit, non ?
Bien sûr.
et en fait, j'ai eu des douleurs physiques chroniques au point que je ne pouvais plus marcher. J'ai dû arrêter tout sport. Y a un moment, le pire moment, ça a coïncidé avec la marche du 23 novembre contre les violences faites aux femmes. Je ne pouvais plus poser les pieds par terre, donc j'ai fait cette marche en béquille. Mon corps m'a lâché. Franchement, c'était... Et c'est une sacrée leçon, quoi. C'est une sacrée leçon, déjà, parce que à la base, je suis quelqu'un d'hyper indépendante, hyper active, hyper le genre de nana, si on me dit les femmes peuvent pas porter ça, bah moi je veux lui porter trois fois le truc qu'il faut porter. Maintenant j'ai changé d'avis là-dessus, qui se casse le dos, c'est bon, moi j'ai rien à prouver. Mais et du coup, enfin, ça a été une grosse leçon d'humilité, parce que déjà bah physiquement en fait je me suis retrouvée handicapée en fait, parce que je devais m'asseoir dans le métro, enfin je pouvais pas attendre, je pouvais pas faire la queue chez la pharmacie, je pouvais pas faire la queue à la pharmacie, je pouvais pas faire la queue à la caisse. Enfin bon, donc c'était un peu c'était compliqué. Et ouais, enfin voilà, donc je pense que c'était une grosse leçon d'humilité en fait, d'accepter l'aide des autres, et puis aussi de se dire mais je suis pas infaillible. Et mine de rien, je pense qu'il y a une leçon là-dedans. Finalement, je me dis c'est bien d'avoir appris ça à 23 ans, parce que du coup maintenant j'apprends à beaucoup mieux écouter mon corps, ma tête, et il vaut mieux apprendre ça tôt en fait, parce que voilà, on va vivre avec ça pendant, j'espère, longtemps, notre corps, enfin nous-mêmes. Et
tu dis qu'il y a une partie que les gens voient et l'autre partie que les gens voient pas. Je suis pas vraiment d'accord. Je pense que les gens ne voient rien. C'est-à-dire que tout ce que les gens voient de toi et de ton histoire, c'est quelques secondes de vidéosurveillance sur lesquelles on voit pas ton visage et qu'on voit surtout en vrai tes cheveux qui volent. C'est surtout ça qu'on voit. Et tout le reste, les gens ne le voient pas. Les gens te voient quelques secondes à la télé c'est un visage et un nom. Et c'est une histoire, mais c'était un personnage qui est passé dans leurs écrans, en fait. Tout le reste, tout ce que tu viens de dire, tout est invisible dans cette histoire. Et justement, il y a une question de la liste qui est la première fois que tu as utilisé ta voix pour défendre une cause qui te tenait à cœur, c'était quoi et quand ? Alors, on est tous au courant, puisque vraiment, c'est un phénomène médiatique international, mais qu'est-ce que ça t'a coûté ? Qu'est-ce que ça t'a coûté ? J'ai l'impression que tu l'as payé cher et tu continues de le payer.
Bah, déjà, ça m'a coûté ma santé. Donc psychologiquement d'abord, et puis physiquement ensuite, donc je m'y attendais pas, mais bon voilà. Après dans le truc positif, c'est que là ça fait quand même 2 mois que j'ai retrouvé mes capacités physiques, et ce qui est juste génial, genre juste avant le nouvel an, donc j'étais trop contente de pouvoir commencer la nouvelle année un peu dans un nouveau départ, on va dire. Donc ce que ça m'a coûté, alors ça m'a coûté donc, ouais, donc en termes de santé, ça m'a coûté un beau traumatisme lié au cyberharcèlement. Parce que le cyberharcèlement, j'estime que ça a été beaucoup plus violent que l'agression physique en elle-même. C'est voilà, des insultes, des gens en fait, qui font leurs petits commentaires sur nous alors qu'ils ne nous connaissent pas. C'est pas facile à vivre la première fois quand on n'y est pas préparé. En plus, moi, je suis vraiment sensible, donc j'ai dû faire un gros travail sur moi. Ma famille m'a beaucoup aidée aussi à savoir mettre de la distance et tout. Ils ont été super. C'est des menaces, des gens qui menacent en fait, de nous tuer, des gens qui nous menacent de nous violer, enfin genre... on en parle, mais genre quand ça arrive, enfin je sais pas, genre moi j'étais pas préparée à ça, enfin personne n'est préparé à ça, mais bon. Ça a été super violent encore aujourd'hui, c'est un gros traumatisme. Systématiquement quand j'en parle, enfin j'ai mal au ventre, j'ai des nausées très violentes parfois. Je peux plus, enfin malheureusement il y a des messages que je connais par cœur, parce qu'évidemment aussi les médias, il y en a beaucoup qui me demandaient de lire des messages, donc j'ai accepté, et donc maintenant ils sont gravés dans ma tête, ce qui est à vie, je pense, enfin je sais pas à vie, peut-être pas, j'espère pas. Donc ça m'a coûté ça. Et je pense qu'il y a un truc, il y a un verrou qui est... Enfin, pas un verrou, il y a... Comment dire ? Enfin, le fait d'être cyberharcelé, il y a un truc qui s'est brisé, voilà, en fait. En moi, je pense, à un moment. Enfin, c'est l'expression que je donnais. Donc je pense que c'est ce qui rapprochait le plus. Peut-être, je sais pas, peut-être une fois en l'humanité. Une fois, hein, pas la fois, parce que... Et puis après, bah, du coup, moi, enfin, ce que j'ai fait, c'est justement, j'ai utilisé ça pour le montrer, pour expliquer que c'était une réalité, qu'en fait, ça suffit pas de dire ces gens, ils sont idiots, ignore-les. Non, non, c'est des gens qui ont cette opinion, qui vont aller jusqu'à l'exprimer, donc ils vont aller jusqu'à agresser, parce que c'est une agression, je pense, de menacer quelqu'un. Donc ils vont aller jusqu'à le faire, et en plus, voilà, on peut pas les ignorer, c'est des gens qui ont le droit de vote, hein, c'est des gens qu'on croise, avec qui on travaille, donc c'est un problème. Alors on peut pas juste dire, ils sont bêtes, ignore-les. Non, c'est une réalité. Faut partir de ça. Donc ça m'a coûté ça. Après, bah ça m'a aussi malheureusement ça m'a coûté des amitiés aussi. J'explique pas forcément pourquoi. Ça m'a coûté. Il y a un truc aussi que je trouve, le fait que comment dire, avant je choisissais de dire que si j'étais féministe ou pas selon les gens que j'avais en face de moi. Bah aujourd'hui tout le monde le sait, donc ça veut dire que
ça t'a coûté l'anonymat, bien sûr. Ça,
oui,
ça, c'est sûr.
Mais vis-à-vis de mes proches aussi, je veux dire, et donc du coup notamment la famille éloignée, trucs comme ça, et du coup c'est pas toujours facile en fait, parce que je sais en fait ce qu'ils pensent du féminisme, parce que j'ai assez parlé à des gens, et je sais que certains ils ont une haine envers ça, c'est une ignorance, hein, mais ils ont une colère, enfin ils ont un ressenti, et du coup c'est difficile de savoir que bah ils vont coller ce ressenti sur nous. Et donc du coup ça, déjà il y a ça, et il y a aussi le fait de du coup si tout le temps on nous lance des débats tout le temps sur des trucs qui sont parfois franchement, enfin c'est fatigant quoi.
Malgré tout ça, si je te donne une machine à remonter dans le temps, juillet 2018, et tu passes pas devant cette terrasse, est-ce que tu prends cette option?
Non, si c'était à refaire je le referais. Ça c'est une question qu'on m'a souvent posée. Non, parce qu'en fait tout simplement déjà ma vie, enfin l'échelle de ma vie, c'est vraiment enfin, c'est pas hyper important, honnêtement, par rapport à ce que ça peut faire avancer sur l'humanité. Il y a un moment où, les moments où c'était les plus difficiles, je me suis posé la question, mais c'était vraiment. Enfin, c'était complètement influencé par toutes les difficultés que je pouvais avoir. Donc, c'était pas non plus hyper. Une pensée très rationnelle, très réfléchie. Mais maintenant, non, je regrette pas. Et puis en plus, pareil, il y a un moment où je refusais d'en tirer quoi que ce soit de positif parce que je me disais, si j'en tire quelque chose de positif, alors c'est pas un combat le plus pur possible. Maintenant, j'arrive à dire que je suis fière de ce que j'ai fait. C'est important. Et que j'accepte et que j'en ai tiré du positif pour moi. Mais c'est parce que c'est évident. Qu'il y a quelque chose de très satisfaisant de faire avancer une cause pour laquelle on tient, qui nous tient beaucoup à cœur. Et puis en plus, bah voilà, enfin toutes ces épreuves, on en sort avec forcément des leçons de vie. Ça fait hyper cucu de dire ça, mais bah c'est vrai en fait. Genre une certaine maturité, ou je sais pas, enfin c'est des expériences quoi. Et oui, et qu'est-ce que ça m'a coûté? Si, évidemment aussi, ça m'a coûté mon année scolaire. Ça aussi, c'est important de le dire. Enfin, j'ai dû redoubler, j'ai dû faire mon année en 2 ans, ce qui signifie que je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ai pas le droit de redoubler cette année. Mais bon, je ne laisserai pas ça arriver. Puis ça m'a coûté de l'argent aussi.
Merci beaucoup Marie, merci pour tout, pour ces deux émissions du coup, si vous avez écouté Les Impertinentes jusqu'au bout, j'espère que vous avez écouté Activiste avant parce que c'était la première partie, sinon vous l'écouterez en deuxième, ça marche aussi. On va terminer avec la partie pile ou face, Esther si tu veux bien on le fait ensemble, je te donne à lire les questions. Du coup en gros on en fait 1 sur 2,
okay. Vas-y.
Donc je commence et comme ça tu prends la suite, ok. En règle générale dans la vie tu es plutôt optimiste ou pessimiste?
Optimiste.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue?
Anxieuse.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir?
Alors ça dépend vraiment de l'humeur dans laquelle je suis. Si je déprime un peu, c'est nostalgique direct. Et par contre, j'ai des moments complètement à l'inverse où genre je suis trop en bonne humeur et là je regarde que vers l'avenir, plein de projets. Donc ça dépend du mood dans lequel je suis.
Réponse acceptée. Merci.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude?
Solitude.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt team profiter de la vie ou travailler maintenant pour profiter demain?
Pendant longtemps, j'ai été travailler maintenant pour profiter demain, c'est ça? Et aujourd'hui, j'apprends à être beaucoup plus profiter de la vie. Et en fait, moi, il y a une phrase que je ne sais pas si je vais réussir à ressortir exacte, que j'ai lue mais quand j'étais très jeune et du coup qui me guide un peu, c'est... apprends comme si tu étais immortel et profite de chaque jour comme si tu allais mourir demain. Je sais plus si c'est exactement ça, mais et du coup je trouve ça hyper. Bah en fait c'est ça qui me guide, mais je l'ai vu vraiment quand j'étais assez jeune. Donc et puis voilà. Puis après pourquoi plus profiter de la vie? Parce que quand tu te rends compte que en fait tout peut s'arrêter du jour au lendemain, tu changes aussi ton regard. Et aussi toutes les réflexions autour du bonheur qui nous disent on ne doit pas courir après le bonheur mais le trouver à chaque instant. Voilà, j'arrête sur la réponse.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente?
Prudente.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt organisée ou bordélique?
Organisée. On dirait pas, hein, mais je...
En règle générale dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique?
Attends, c'est des opposés ça?
C'est pas des opposés.
Perfectionniste.
Tu es plutôt perfectionniste. En général, j'aime beaucoup terminer mes interviews par cette série de questions parce que normalement, je connais les réponses. Parce que quand j'ai passé 1h30 à interviewer quelqu'un, normalement, je sais ce qu'elle va répondre. Donc, j'aurais été très surprise que tu me dises pragmatique après avoir parlé de ton syndrome du perfectionnisme, après t'être excusé vraiment une demi-trentaine de fois.
Mais tu sais que là, en plus, genre, je meurs d'envie de m'excuser d'avoir trop parlé de moi tellement, en fait, c'est ancré dans ma tête que parler de soi, c'est pas... Bah c'est pas bien.
Et c'est pas que ancré dans ta tête, c'est un truc qui est ancré dans nos têtes. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus fière de pouvoir tendre le micro à tellement de meufs, tellement cool, qui d'elles-mêmes en fait n'iraient pas solliciter de l'attention médiatique, n'iraient pas demander la parole. C'est quand même un comble qu'il ait fallu attendre que tu sois agressée pour qu'on ait accès à ta parole. Ça fait 3 heures qu'on discute parce qu'on a fait 2 épisodes ensemble et c'était passionnant. Merci beaucoup.
On pourrait dire encore énormément de choses. C'était vraiment génial.
Merci beaucoup. Non, merci. Mais tu vois, et là je vais rentrer dans une phase où je vais me dire mon Dieu, mais j'aurais pas dû dire ça. Et je pense que je vais, en général, quand je m'ouvre autant, après, j'ai une phase où j'ai besoin de rester sous la couette, tu vois. Genre me fermer du monde. Voilà. Mais après, je vais finir sur ça quand même, non ?
On va couper au montage de toute façon ce qui était un peu trop intrusif ou ce qui va trop dans des détails, etc.
Et de manière générale, moi, j'écoute jamais. Enfin, j'écoute jamais les trucs où je suis. Je peux pas, en fait. Je ne peux pas écouter ni me voir. Donc.
Écoute, c'est
encore. Sois pas surprise si jamais. Mais par contre, je l'envoie toujours à mes parents comme vérif.
Ça marche. Merci beaucoup, Marie.
Merci à vous deux.
Merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les Impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte @conquérir.le.monde ou sur mon compte @clem_podoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est www.patreon.com/clembodoc. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.